Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Quel magnifique passage de l'Écriture. Gloire au Seigneur.
Amen.
Alors, nous pourrions nous poser une question. Qu'est-ce que Dieu va obtenir de nous en nous révélant la grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ? Alors bon, vous me direz que je mette ma foi en Jésus-Christ. Je crois que c'est la première des choses pour que, croyant à l'œuvre de la croix, je sois pardonné, lavé de tout péché, que je fasse la paix avec lui, afin que je sois sauvé. Bon, c'est très bien, c'est pas faux. Mais pas seulement. Notre Père a l'ambition pour nous, il a plus d'ambition que nous. Je me souviens d'une brave sœur qui disait, moi, oh, la dernière place au paradis, ça me convient très bien. Mais c'est pas du tout la volonté de Dieu, c'est pas du tout dans la pensée du Seigneur. Il veut faire de nous des fils et des filles à l'image de Christ. Nous savons que l'œuvre de la grâce dans nos vies, elle n'est pas terminée à la conversion. Elle ne fait que commencer. C'est le début. C'est le début. Le fait d'être passé par la croix, c'est-à-dire par la repentance, et d'avoir saisi par la foi le salut qui nous était, le pardon et le salut qui nous était offert par grâce, a fait de nous, par l'action du Saint-Esprit, de nouvelles créatures. Mais, c'est, vous le savez bien sûr, je ne vous apprends rien, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Hein? C'est seulement la ligne de départ, c'est l'entrée dans une vie nouvelle qui nous amène à tourner le dos à une vie charnelle et mondaine pour nous engager dans l'obéissance au Seigneur, pour nous engager dans la vie de l'Esprit. Romains 8, 29 a été traduit par parole vivante de cette manière, « Dieu a décidé de faire d'eux ses enfants, au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. » Afin que Jésus soit l'aîné d'une nombreuse famille, la famille de Dieu. Amen.
Amen.
Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Il veut que ces nouvelles créatures soient semblables à l'image de son Fils. Il veut que ces nouvelles créatures lui ressemblent. Le pardon de nos péchés, si merveilleux soit-il, n'est que la condition première pour que le Saint-Esprit puisse commencer son œuvre dans nos cœurs qui est de former en nous l'image de Christ. C'est à des chrétiens, c'est aux Galates, que au chapitre 4, que l'apôtre dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ah, il ne s'agit pas de rester à piétiner sur place, sans besoin d'avoir de l'ambition. Première expérience, c'est bien, moi, je n'ai qu'un regret. C'est d'avoir tardé un certain temps avant d'ouvrir mon cœur au Seigneur. C'est le seul regret que j'ai, parce qu'après, c'était bien meilleur qu'avant, voir au Seigneur. Hein? Alors, bien sûr, Dieu nous appelle pas seulement un premier pas, une première expérience, mais il nous appelle déjà. Moi, je ressentais à l'époque, m'étant rebelle, quand j'étais encore adolescent, je ressentais l'appel du Seigneur au fond de mon cœur. Mmh. Je sentais qu'il m'appelait à ouvrir. Alors, j'ai résisté longtemps, c'est dommage. Il faut jamais faire ça. Je dis ça pour les jeunes. Ah non, il faut tout de suite ouvrir son cœur au Seigneur le plus vite possible, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Et le désir, bien sûr, pour nous, de faire entrer dans la gloire des fils et des filles qui ressemblent à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, comment l'a-t-il fait? Ben, il est écrit tout simplement à son image, à sa ressemblance. Alors, il ne s'agit pas d'une image physique, nous savons que Dieu est esprit. Nous ne voulons pas nous attarder sur cette pensée, mais c'est une copie d'un contour divin, d'une ressemblance morale. Mais par la désobéissance, le péché, son cortège de malheur, on peut le dire, quel terrible cortège, est entré dans le monde, l'image divine, l'esquisse divine en l'homme a été souillée, elle a été altérée. Le serpent avait dit, vous ne mourrez pas, vous mourrez point. C'était qu'une demi-vérité. L'homme n'est pas mort physiquement, hein, mais il est mort spirituellement. Son esprit est devenu dans un état de mort à cause de son péché. L'être humain, avant, quand il était dans le jardin d'Éden, sans péché, visité par Dieu, rendez compte, ça devait être merveilleux. Quelle merveille! Quelle merveille! Ben, il ne pouvait pas avoir moins de rayonnement que Moïse quand il sortait de la tente d'assignation, quand même, quelque part. On se dit, hein, quand on réfléchit un petit peu, c'est quand même, Moïse, quand il sortait de la tente d'assignation, son visage rayonnait, c'est écrit, hein. Mais Adam, il était déjà, quel bel homme, hein. Et puis, je pense qu'il rayonnait aussi la présence de Dieu, c'était quelque chose d'extraordinaire, hein. Mais le diable a apporté son enseignement trompeur. Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. En quelque sorte, il va dire à Ève, mais attends, tu vas devenir une déesse. Ha ! Tu vas devenir une déesse. Alors le poison du mensonge, non rejeté, non mis à la lumière de la parole et de la volonté de Dieu, elle va créer une ambition malsaine. Bien sûr. Hein, ça va déboucher sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ça va déboucher sur l'orgueil de la vie. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. L'image sainte de Dieu était polluée, était perdue. La sainteté perdue en Éden a amené l'être humain à se vautrer dans l'idolâtrie. Quand on lit tout l'Ancien Testament, on voit combien Israël a souffert à cause de son idolâtrie. Que de malheurs sont tombés sur eux, que de souffrances. Alors, de temps en temps, ils revenaient au Seigneur. Mais il y avait toujours cette souffrance à cause des idoles. Le pécheur est devenu comme ses idoles, il porte l'image de l'idole au lieu de porter l'image de Dieu. Le psaume 115 dit « Il leur ressemble ce qui les fabrique, tous ceux qui se confient en elle. » Mais Dieu ne baisse jamais les bras. Gloire au Seigneur. dans sa volonté de restituer à l'homme l'image perdue. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Amen. Par amour, il a donné son Fils unique. Le Fils dans son amour, qui était bien sûr le reflet visible du Dieu que nul n'a vu. Le premier-né de toute la création, c'est écrit dans le sens où il est avant toute chose, que nul n'a vu et que nul ne peut voir. Le premier-né de toute la création, il est la primauté sur toute créature, il est avant toute chose. Et la finalité de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est qu'il entre dans le ciel le plus possible de fils et de filles qui soient semblables à lui, de fils et de filles qui portent l'image de Christ, qui portent son image. Dieu nous offre en quelque sorte une métamorphose. Un pécheur qui vient à lui, le Seigneur lui offre comme une métamorphose, qui est le pécheur qui n'est pas rebelle, qui va se convertir, qui va demander pardon au Seigneur. Il lui apporte une transfiguration de son être intérieur. Je suppose que vous avez fait cette expérience. On a souvent pris l'image de la chenille et du papillon, hein, de l'insecte rampant sur les feuilles. Il va sortir un joli papillon qui va s'envoler pour butiner les fleurs. C'est ça, là, quelque part, la conversion au Seigneur, la nouvelle naissance. Hein. Alors, Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Quoi. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Transformer, c'est le mot grec métamorpho. Hein. Littéralement, laissez-vous métamorphoser. Hein. Une métamorphose dont bénéficient tous ceux dont l'esprit a repris vie lors de leur conversion et qui ont le désir, l'aspiration de ressembler à leur Seigneur. C'est le renouvellement de leur mentalité. Leurs pensées ont une nouvelle orientation. C'est vrai que quand nous venons à Jésus, tout notre être intérieur, mentalité, intelligence, conscience, esprit, tout a besoin d'être régénéré, tout va être régénéré, renouvelé, métamorphosé. Il faut laisser toute la place au Seigneur pour qu'il le fasse, bien sûr. Cela commence à la nouvelle naissance. Quand on voit Pierre le jour de la Pentecôte, voilà. Quand même, ce pêcheur de poissons, il devient quand même un orateur. Parce que l'Esprit de Dieu est sur lui, il est rempli du Saint-Esprit. Il se présente devant la foule qui est accourue, il explique ce que Jésus a fait, ce qu'on lui a fait, bien sûr, et pourquoi les disciples parlent en langue. Et nous voyons qu'une courte prédication inspirée par le Saint-Esprit, va toucher les cœurs. C'est écrit, hein, acte 2, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Hein? Et ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Leur cœur a été percuté en quelque sorte par la parole de Dieu. Il y a eu un début de renouvellement de leur mentalité. Ils ont changé d'avis sur Jésus et sur eux-mêmes. Hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Quand Paul se justifie devant les grands de son époque. Il explique que Jésus lui a dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage !» Et l'héritage avec les sanctifiés. C'est vrai que nous avons toujours cette mission de chrétien. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Et de par notre présence dans ce monde, hein, avant de parler, de par notre présence, nous sommes témoins et devons, là où nous sommes, refléter Jésus-Christ. Refléter l'image de Christ. Et très souvent, peut-être nous nous précipitons pour parler. Bon, c'est bien quand le Seigneur nous pousse, nous conduit aussi. Quelquefois, dans certains cas, on voit que des gens étaient touchés simplement par le témoignage des chrétiens, par l'image de Christ qu'ils ont vue en eux. Hein? Avant que les chrétiens s'expriment et parlent de leur foi, il y a eu un témoignage apporté. Il y a eu le reflet de Christ qui a été là et qui a changé la manière, la mentalité de certains. C'est la mission de tout chrétien authentique. Le message de la parole aussi, bien sûr, a pour but de percuter le cœur du pécheur, de faire changer sa vision des choses, de créer la parole, elle va créer la foi. Elle est créatrice, la parole de Dieu. Elle va créer la foi, elle a créé dans nos cœurs, elle va créer la foi dans les cœurs, elle doit créer la foi dans les cœurs qui nous entourent, que nous, auprès de ceux auprès desquels nous sommes appelés à témoigner. Alors quelqu'un qui est renouvelé dans sa mentalité, par la parole, par le Saint-Esprit, il en a fini avec le péché, bien sûr, avec le péché volontaire, avec la rancune, avec toute la haine, avec toutes ces choses, ce cortège d'horreur qui habite le cœur des humains aujourd'hui. Mais il a la haine, mais c'est celle du péché. Que le Seigneur nous aide. Hein? Il est entré dans la sphère d'amour de Dieu. Il va développer une intelligence spirituelle. Alors, c'est certain que tout se fait pas en un jour. Tout se fait pas en un jour. Hein, il nous faut être patient, persévérant. Ésaïe 55, vous connaissez très bien, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Elle est merveilleuse, cette parole. Vous savez certainement raconté que nous étions roule canoë à Rouen, il y a quelque temps, là. Et il y a un monsieur qui vient me voir, est-ce que vous êtes monsieur Pixeux? Je dis, bah oui, je connaissais pas cet homme-là, qu'est-ce d'où il sort. Bon, et il me dit, mais je vous ai entendu prêcher à Darnétal au temple. Ah bon? Alors dans ma tête, hein, j'ai fait vite le calcul, hein, dit, ça fait quoi, 15 ans, 20 ans, c'est quoi ce truc? Elle m'a dit, vous avez parlé sur tel sujet. Ah bon? Vous voyez que la semence, elle était restée. Vous voyez la valeur de la semence de la parole. C'est merveilleux quand même. Bon, en plus, c'est vrai qu'il se rappelait de mon oncle, qui a un nom à coucher dehors et qui avait de logement. Il se rappelait de ma figure qui avait pris 20 ans. Attendez, incroyable. Il se rappelait de la méditation. Bon. Voilà. Comme la pluie qui pénètre doucement le sol, comme la neige qui reste en surface avant de fondre, ben il faut du temps pour que l'image de Christ s'imprime en nous. Notre nature charnelle, elle va essayer, bien sûr, le plus possible, d'arrêter, de limiter l'œuvre de Dieu. On a une nature, ce qui lui plaît, vous savez, c'est la tiédeur. Hein? Un état de tiédeur, bon, une petite réunion de temps en temps, c'est pas grave, ça va bien. Mais la tiédeur, c'est un état dangereux. C'est terrible, le Seigneur a dit. Hein. Il a dit, hein. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur parle pas pour rien. Hein. Je crois que ça nous fait. Ça nous fait frémir un peu, non? Nous avons besoin d'avoir le feu de l'esprit dans nos cœurs. Amen, amen. Recherchez le Saint-Esprit. J'aime bien Éphésiens 5, 14. Hein, la Tob a traduit, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. Sur toi le Christ resplendira. Amen. Nous avons besoin de secouer la tiédeur, ça vaut le coup, hein? Je me souviens, il y a un certain nombre d'années, mais dans la famille, on nous traitait de fanatiques. Ils sont fanatiques, ils vont à toutes les réunions, qu'on nous disait. Non, ben, on n'était pas fanatiques, je crois que c'était. On avait un peu de feu dans le cœur, simplement. Hein, c'est pas... L'apôtre, lui, on peut dire que l'apôtre Paul, il avait une certaine pointure spirituelle, si on peut s'exprimer ainsi. On parle dans le monde de pointure, vous savez. Mais il avait une certaine pointure spirituelle, c'est un exemple de foi. Un chrétien imité, il disait qu'il n'avait pas atteint la perfection, mais qu'il s'élançait, qu'il courait vers le but pour l'atteindre. Paul, il avait une profonde aspiration, un profond désir spirituel, il avait une ambition, celle de ressembler le plus possible à son Seigneur. Matthieu 6, 16, 24, je vous livre encore parole vivante, hein, bon. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Oh, c'est un beau programme. C'est un beau programme. Hein? Il y a trois choses. Renoncer à nos quatre volontés, à la volonté de la chair, pour faire la volonté de Dieu, car nous lui appartenons. Nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui nous a rachetés au prix de son sang précieux. Hein. Deuxièmement, se charger. Ben, la croix ici, ce n'est pas l'image des difficultés. Moi, je regrette. Hein. On prend souvent ce texte comme ah, ben, chargé de sa croix, c'est tous les problèmes de la vie. Eh bien, quand le Seigneur a parlé de la croix, il ne parlait pas des problèmes de la vie, parce que pour lui, la croix, c'était la mort. Hein, il faut bien comprendre ces choses quand même. Hein. C'était la mort du vieux moi. C'est la mort du vieux moi, se charger, sa croix. Suivre Jésus, se nourrir chaque jour de sa parole, lui obéir pour lui ressembler, pour porter son image. Que le Seigneur mette en nous cette soif,
Amen.
ce désir ardent de ressembler au Seigneur. Vous savez, moins nous renonçons à nous-mêmes et plus nous souffrons. Ça, c'est sûr. Hein? Plus nous souffrons des réflexions, des critiques, des attaques personnelles dans ce monde, ça ne manque pas. Hein? Et plus on est plein de soi-même, plus on souffre. Hein? Si vous pensez à un mort, par exemple, il ne va pas vous dire aïe, il n'y a rien. Oui, non, mais c'est ça. Hein? Nous avons besoin de renoncer au vieux moi, là. Le vieux moi, sa place, c'est sur la croix. Bon, quelquefois, il descend vite de la croix pour faire railler hein, quand il y a un problème. Que le Seigneur nous aide. On a des progrès à faire. Hein. Donc, ça ne veut dire, pas dire que nous ne connaissons pas de peine ou de souffrance ici-bas, c'est sûr. Hein. Mais, une chose qui est importante, je crois que c'est dans la mesure où Jésus prend pied et place dans nos cœurs, que l'amour, qui est la nature même de Dieu, va prendre place dans nos cœurs. Mais c'est dans la mesure où Jésus prend pied et place dans nos cœurs que nous allons recevoir par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va pouvoir répandre en nous l'amour de Dieu. On parle beaucoup de l'amour quelquefois, comme si c'était un sentiment humain. Mais non, l'amour, Dieu est amour, c'est ce qui est écrit, hein. À cette condition, bien sûr, nous avons pleinement part à la bénédiction, pleinement part à la consolation. Le chemin, finalement, il est toujours plus facile quand c'est le fruit de l'esprit qui se développe en nous. Quand l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi se développent dans nos cœurs, quand le fruit de l'esprit se développe, le chemin est plus facile. Et pour cela, nous avons besoin de contempler davantage Jésus. Nous le contemplons, c'est vrai, spirituellement, dans la parole, dans la prière, dans la communion. Vous savez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous avons besoin de contempler Jésus, de le contempler couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert pour nous. Contemplons Jésus et nous serons transformés en la même image par le Saint-Esprit. Bon, excusez-moi, je vais
me relever un peu. Rafraîchir la gorge.
Quand on voit Pierre, au départ, il a été au premier rang de la réunion quand même, Pierre. Hein, le Seigneur est monté dans sa barque. Ah, dis donc, il ne pouvait pas être mieux placé, hein.
Non, c'est vrai.
Il n'a pas manqué une seule parole, hein, Pierre, quand même. Alors, quand il a cessé de parler, Jésus a dit à Simon, avant son pléneau, « Et jetez vos filets pour pêcher. » Jésus lui a dit tout cela après avoir apporté la parole à la foule. Moi, je ne sais pas, Pierre, il aurait très bien pu dire, « Écoute, hein, toi, tu parles bien. » Tu es charpentier, moi je suis pêcheur, mon métier je le connais. Hein. Mm-hmm. Non. Il n'a pas dit ça. Hein. Il a dit sur la parole. La parole de Dieu avait créé quand même en Pierre un renouveau de pensée. Hein, il n'a jamais dit, toi tu es charpentier, moi je suis pêcheur, tu ne connais rien. Non. Il était touché par la parole. Nous comprenons bien qu'il s'est passé quelque chose. Hein? Sur cette parole que je viens d'entendre, cette parole qui vient tout droit du ciel, nul n'a parlé comme cet homme. Cette parole qui a touché mon cœur, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est vrai que nous sommes des instruments, des vases que Dieu a choisis pour être ses témoins au milieu de ce monde. Nous en parlions tout à l'heure. Et de ces vases, Dieu veut faire des vases d'honneur. Des vases qui portent l'image de Christ. Nourrissons-nous chaque jour davantage de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide dans notre témoignage vécu et parlé. S'il n'y a qu'un témoignage parlé, ça ne marche pas. Que le Seigneur nous aide. Alors, aujourd'hui, Internet, c'est manifestement et malheureusement une poubelle. C'est devenu une poubelle. Mais dans cette poubelle, il y a quand même des témoignages, il y a des méditations, hein. Il y a des choses belles. Elles sont là au milieu d'un océan d'ordures, de boue. Ah! C'est vrai qu'en tant que chrétien, on pourrait publier des choses. Moi, ça m'arrive. Bon, ça arrive à d'autres. Hein, c'est l'Église du Mont-Gargan, l'Assemblée du Mont-Gargan a publié. Hein. Bon. Alors, on pourrait être content quelquefois. Oh, le message, 50 visites, 100 visites, car on est content. Excusez-moi, mais quelquefois on déchante. Quand on rentre un peu plus dans le système, faut aller gratter un peu dans Internet, mais là, on a accès au temps passé, au temps moyen passé, par les 50 ou les 100. Ben, je vous dis, les pauvres, hein, il y a de quoi déchanter. Qui a soif de la parole? Qui a soif aujourd'hui? J'en parlais avec un frère il n'y a pas longtemps, là, qui publiait justement des choses et il les décourageait, quoi. Bon, mais j'ai pu lui dire, frère, une seule graine, une seule graine de la divine semence a le pouvoir de conduire des pécheurs à la croix des âmes à Jésus-Christ, hein, même s'ils en écoutent qu'une phrase. Donald G., qui a été auteur de nombreux livres, hein, Donald G., en particulier de beaux livres sur les dons spirituels. Il était surnommé l'apôtre de l'équilibre. L'apôtre de l'équilibre. Il a dit, alors il y a une soixantaine d'années, hein, puisqu'il est parti avec le Seigneur depuis longtemps déjà, il disait à un groupe de jeunes, je me réjouis de ce que la relève est assurée, mais je ne vous dis pas que Dieu vous bénisse. Je vous dis que Dieu vous aide, car il va entrer dans l'Église, l'Église en général bien sûr, un manque de connaissances profondes de Dieu et la mentalité du monde. Vous vous rendez compte? On y est là. Pendant notre marche chrétienne, vous savez, le monde n'est jamais loin. Et nous offre sans cesse des concepts, des modes de pensée, des amusements. Dans ce monde dominé par l'adversaire, il y a très souvent une influence mauvaise. Et nous avons besoin de le ou de la discerner. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide. Alors, je vais bientôt terminer, mais je voudrais vous citer déjà deux textes que vous connaissez bien, parce que quel merveilleux modèle nous avons en Jésus-Christ. Quel merveilleux exemple, quand même. Hein? Il nous a laissé, le Seigneur Jésus. C'est 1er épître de Pierre, chapitre 2, Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen.
Amen.
Eh bien, c'est un modèle, hein, à imiter. Amen, merci Seigneur. Philippiens 2, 5, vous connaissez bien sûr, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous exhorte. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Bon, il n'a pas considéré cette égalité avec Dieu comme seul profit pour lui-même, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et bon, serviteur, c'est doulos, hein, en grec, c'est esclave. Hein. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Ce texte, il nous parle de l'humilité de Jésus-Christ. Il nous parle de son obéissance jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Quel bel exemple le Seigneur nous a laissé. Alors, par le renouvellement de notre intelligence, le Saint-Esprit met en nous les sentiments qui étaient en Christ. Savons que le christianisme, c'est, finalement, c'est pas une religion quand même, c'est bien plus que ça, hein? Je sais pas, mais le christianisme, c'est pas un code de morale, c'est bien plus que cela. Le christianisme, c'est pas un spectacle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, à des moments, c'est un spectacle. Enfin bon, dommage, dommage. Le Saint-Esprit, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est la et sa communion. La connaissance et la communion du Seigneur. La connaissance, vous savez, dans le plein sens du terme, dans le sens biblique du terme, dans le sens spirituel du terme, la connaissance, celle qui nous transforme en l'image de Christ. Amen.
Amen.
Alors, ici-bas, c'est vrai que tout est partiel. Mais, quand ce qui est partiel disparaîtra, nous porterons l'image de Christ à la perfection. Vous connaissez 1 Jean 3, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous l'aurons contemplé sur la terre comme dans un miroir, mais là nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Ah, je vous laisse encore un texte. Philippiens 3, 21, notre cité à nous est dans les cieux. Amen.
Oui.
Il y a un chant qui disait, là-haut dans la gloire, j'ai une maison. Si l'or sur la terre n'est pas mon partage, là-haut dans la gloire, j'ai une maison. Une douce maison. Amen. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Oui, nous en fait voir celui-là. En le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Jésus revient bientôt. Et nous l'avons Nous avons beaucoup chanté. Hein? Philippiens 3:20, je vous livre ce que Parole Vivante a traduit. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Jésus, nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Je crois que c'est ça. C'est mon besoin de contempler le Seigneur et de le désirer, lui, de plus en plus. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Amen.
Amen.
Eh bien, Seigneur, c'est vrai. Tu nous as donné, Père, un modèle merveilleux en Jésus-Christ. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons voulu faire selon notre volonté, selon notre pensée de la chair. Oh Seigneur, notre désir, c'est de contempler Jésus pour le lui ressembler chaque jour davantage.
Amen.
Et pour cela, nous avons besoin de ta grâce. Pour cela, nous avons besoin du secours de ton esprit. Oh Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Mets en nous cette soif de la parole. Cette soif de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Oh Seigneur, nous désirons vivre ensemble. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, notre Père, te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Être comme Jésus, être comme Jésus, c'est bien là tout mon désir, le long du chemin jusqu'au jour divin, c'est bien là tout mon désir, être comme Jésus.